Vous écoutez France Culture.
Réplique, la politique à l'âge de la communication, avec Marie Degand et Michel Schneider. Michel Schneider, qui est psychanalyste et écrivain, regarde les politiques se regarder dans le miroir des médias et il a tiré de cette observation un petit livre caustique, Miroir des princes. Marie Degand, qui enseigne la littérature comparée, est passée, quant à elle, de l'autre côté du miroir. Cette femme de gauche a été une des plumes de Nicolas Sarkozy. Elle relate son expérience paradoxale dans « Sous la plume, petite exploration du pouvoir politique ». Il sera très intéressant de confronter les diagnostics de l'un et de l'autre. Mais avant cela, une question. Avez-vous jamais été tenté par la carrière politique? Et si, d'aventure, l'un de vos enfants vous disait que, soucieux de l'avenir du monde et du bien commun, c'est ce qu'il voulait faire, l'encourageriez-vous ou essayeriez-vous, au contraire, de le dissuader, Marie Degand?
Pour moi-même, la réponse est claire. Non, je n'ai absolument pas envie de faire de la politique et de me présenter en mon nom devant les électeurs. Je pense que c'est un lourd sacrifice à faire. Je n'ai pas assez d'ego pour avoir envie de le soumettre au débat. Et puis aussi, je crois que j'attache trop de prix à ma liberté personnelle. Et lorsqu'on se présente en politique, il faut accepter d'être aliéné, notamment à une discipline de parti. Et devenir militant, ça signifierait s'arrêter de penser, essayer de se tenir à ce qui a été décidé par un parti, même quand on n'est pas d'accord. Et ça, j'en serais tout à fait incapable et je n'en ai aucune envie.
Mais attendez, quand même, c'est très étonnant, parce que devenir plume aussi, c'est une aliénation. Vous n'écrivez jamais en votre nom propre.
Mais j'écris pour le pouvoir qui s'exerce et qui transforme la réalité. Et pour moi, cet ancrage, ce nouage entre les mots et l'action est crucial. Parce qu'à partir de là, il s'agit d'une parole de vérité. Peut-être que parfois, l'action annoncée n'arrivera pas à se concrétiser. Mais il y a toujours cette volonté-là derrière. Donc c'est une parole qui est fondamentalement sincère et ancrée à une action. Alors que la parole du militant ou de la conquête du pouvoir, par exemple, je n'ai jamais écrit pour des campagnes, cette parole-là est très différente parce qu'elle vise à séduire, à s'arroger des voix, et on n'est pas du tout dans un ancrage vers le réel. Donc c'est très différent. Maintenant, si un de mes enfants voulait se présenter, faire de la politique en tout cas, je l'encouragerais parce que je pense que c'est très généreux de se dévouer pour la collectivité, parce que je pense qu'il y a véritablement une générosité dans le fait d'être politique. Certes, on y trouve des satisfactions d'ego, mais on doit vraiment renoncer à une grande part de sa liberté. Donc il faut être reconnaissant envers nos politiques, quelles que soient leurs qualités et leurs défauts. Mais je serais aussi navrée, mon cœur de mère serait bien attristé, parce que je pense que les politiques n'ont ni famille ni amis, et ils sont tout entiers pris par le jeu qu'ils ont devant eux. Et finalement, c'est ce jeu, peut-être parfois puéril, mais qui leur permet de faire aussi de grandes choses. Mais ils sont seuls, oui.
Alors, Michel Schneider.
Attiré par le pouvoir, qui, devant un micro, faisant partie des élites, vous dirait qu'il ne l'est pas, mentirait. Attiré par le pouvoir, nous le sommes tous, à des degrés divers. Et dans ma propre vie, le pouvoir a pris la forme du non-pouvoir, du militantisme collectif gauchiste dans les années 60, et ensuite mon entrée à l'ENA, qui est quand même l'école du pouvoir, qui a fabriqué un certain nombre d'hommes politiques, dont dans ma promotion, Claude Guéant, Alain Richard ou Jean-Louis Bianco. Bon. Donc, avoir fait l'ENA et vous dire « je ne suis pas intéressé par la politique et par le pouvoir d'État » serait faux. Pour autant, cet cette école n'était pas tout à fait mon genre, et j'ai mis longtemps à m'en rendre compte, et ce type de pouvoir non plus. Le pouvoir d'État est une chose, le pouvoir politique qui est censé servir l'État et l'intérêt général est une autre chose. Et ma fréquentation des hommes politiques, pour autant qu'elle a pu exister dans un certain nombre de
cas... Vous avez travaillé dans un cabinet ministériel. Hein?
Jamais dans un cabinet. Jamais dans un cabinet. Parce
mais
que
dans un ministère.
Oui.
Vous travaillez au ministère de la Culture.
Oui, j'étais directeur d'administration centrale, c'est-à-dire je faisais partie de l'administration. D'accord. Et non pas du pouvoir politique et des équipes de cabinet qui sont asservies, comme le dit Marie de Gante, au pouvoir d'un ministre. Donc, cette expérience-là m'a dissuadé... Et pour longtemps, de continuer à chercher ce pouvoir étrange, ce pouvoir sur les êtres, ce pouvoir sur les choses, sur les biens aussi, dans un certain nombre de cas. Et je préfère de loin le pouvoir sur les mots, pour autant qu'il existe, qui est plutôt un impouvoir qu'on trouve dans la création littéraire que sous les ordres de la République.
Mais vous résumeriez l'attrait de la politique pour celui qui souhaite y faire carrière par le mot goût du pouvoir. Parce que on peut vous répondre aussi service de la collectivité, goût du bien public et aptitude à faire les sacrifices qui viennent avec un choix de ce type-là. Vous n'y croyez pas ? Vous pensez que...
C'était une époque révolue, ce n'est pas le monde d'hier, c'est le monde d'avant-hier, celui que les gens de moins de 50 ans n'auront pas connu, que celui où l'on disait que la politique était au service de l'intérêt général, que les lois étaient faites pour régler des problèmes de la société dans son entier, et non pas une succession de mesures catégorielles et d'annonces locales faites à rallier telle ou telle partie de l'opinion à travers les médias. Donc la notion d'intérêt général et d'État avec une majuscule, à l'époque on mettait une majuscule à État, j'y reste attaché, mais je crois que l'État lui-même s'en est détaché de cette passion de l'intérêt général.
Est-ce que votre expérience confirme un jugement aussi négatif et aussi catégorique, Marie de Gand ?
Évidemment non, tous les gens que j'ai rencontrés travaillaient, je pense sincèrement, pour l'État. Mais là où je rejoins Michel Schneider, c'est que je pense effectivement que la notion d'intérêt général a eu tendance à se dissoudre, à se perdre. Et la politique n'a plus de vision d'ensemble de cet intérêt général. Et effectivement, elle se réduit bien souvent à une série de mesures. Et la politique est devenue des réponses à des problèmes et non pas une vision. Bon. Mmh. Mais c'est un constat de fait. Je ne pense pas qu'il faille y voir le résultat de politiques qui voudraient tirer le pouvoir vers une coterie ou des intérêts de caste, etc. Je pense que c'est l'état de notre société.
Oui, est-ce que ça ne vient pas, Michel Schneider, aussi d'une société elle-même de plus en plus rétive à une notion comme celle d'intérêt général. Et d'ailleurs, c'est une affaire assez ancienne, parce que c'est le constat que fait Marc Bloch, après tout, dans Une étrange défaite. Il dit quelque chose s'est passé en France qui explique l'effondrement, c'est précisément que les intérêts catégoriels primaient sur le sens de la collectivité, sur l'attachement à la nation et à son destin. Et on peut se demander si, aujourd'hui, nous ne vivons pas quelque chose du même type. Et les hommes politiques ont du mal, face à une société aussi divisée, à représenter quelque chose qui la transcende.
Bien sûr, dans ce triangle que je dépeins entre les politiques, les médiatiques, ce que j'appelle les médiatiques qui comprennent les journalistes et les communicants, et les basiques, c'est-à-dire vous, moi, l'opinion ordinaire, il y a un jeu de rôle et de renvoi où le narcissisme de chacun se conforte du narcissisme de l'autre. Les basiques ne sont pas exempts, loin s'en faut, de sens de leur intérêt local, particulier, personnel, et de leur narcissisme et de leur image. Pascal, dont j'utilise beaucoup ces trois discours sur la condition des grands, 1660, une œuvre absolument magnifique, faite pour l'édification du prince, montre bien que déjà la croyance dans la chose collective, la chose publique, est dépassée et subvertie par le sens de l'intérêt particulier. Et il dit on nous traite comme nous voulons être traités, nous haïssons la vérité, on nous la cache, nous voulons être trompés, on nous trompe. Et c'est bien ça le problème, c'est que l'opinion elle-même, frappée par une épidémie narcissique que tout le monde constate partout dans le monde, a les dirigeants qu'elle mérite, c'est-à-dire qui sont son reflet.
Mais là, quand même, pour en revenir à cette première question, personnellement, j'hésiterais, ou j'aurais hésité, car il est bien tard pour prendre une décision de ce type, à faire une carrière politique, parce que j'ai le sentiment qu'il n'y a que des coups à prendre. Et si tant est que j'ai le goût du pouvoir, donc le pouvoir sur les êtres, ben, je pense que j'irai le satisfaire ailleurs. Il me semble que le pouvoir des animateurs et des journalistes sur les hommes politiques, par les questions qu'ils posent, leur droit d'exiger une réponse, est très grand et très satisfaisant. Je pense que le goût du pouvoir, ça fabrique aussi des Edoui Plenel, au moins autant que des hommes politiques qui eux-mêmes sont soumis au jugement perpétuel des journalistes, des animateurs, confrontés à leurs marionnettes et amenés à s'humilier sans cesse pour, en passant à la télévision, augmenter leur notoriété. Donc pour moi, la vie politique, je trouve que à notre ère médiatique, elle n'est pas le lieu de la satisfaction narcissique, mais une sorte de calvaire permanent.
Marie Dogan. Oui, je souscris assez à votre proposition. Il me semble que lorsque Michel Schneider met en forme un triangle très justement présenté entre le politique, les médias et les citoyens, la balance des pouvoirs est mal répartie. Il pense ça comme une pyramide avec le pouvoir au sommet qui jouirait de lui-même et les citoyens fascinés en bas, manipulés par des médias plus ou moins complaisants. Bon. Mais effectivement, le politique aujourd'hui... D'abord, le politique a continué de travailler. Là-dessus, je ne vous suis pas, Alain Finkielkraut. Je pense que le politique garde une sorte d'emprise sur le réel. Non pas sur les esprits, mais sur le réel. Si vous prenez la France, au bout d'un quinquennat, elle aura pris un visage différent sous François Hollande et sous Nicolas Sarkozy. Bon, certains me diront que la politique se poursuit, etc. Mais enfin, disons que dans la réalité, vous aurez vu un changement. Et donc, le travail du politique qui est de décider de ce changement, il n'est pas vain, il existe encore aujourd'hui. Il ne faut pas penser que tout le monde doit partir dans les entreprises, par exemple, et que là serait le seul pouvoir aujourd'hui. Mais je veux en revenir à cette question de la...
Pas du pouvoir sur les choses.
Vous parliez du pouvoir médiatique.
Le goût du pouvoir sur les êtres, le goût d'assujettir, une espèce de cruauté qui fait qu'on peut faire ce qu'on veut de quelqu'un.
Oui,
il me semble qu'on on l'assouvit beaucoup quand on est précisément un humoriste
mais
aujourd'hui.
Mais les citoyens ont ce pouvoir-là aujourd'hui. Si vous prenez Twitter, Internet, aujourd'hui, chaque citoyen a le pouvoir de prendre en défaut le politique et aussi de lui demander des comptes, ce qui peut avoir une vertu civique par endroit, par moment. Donc, je ne pense pas que les citoyens soient les basiques soumis tout en bas. Donc, ils ont repris, je pense, une grande partie du pouvoir. Et les médias, pour le coup, je suis tout à fait d'accord, les médias ont tendance à nourrir l'air de la mauvaise foi. L'air de la mauvaise foi, pour moi, c'est le fait que les médias ne s'intéressent à la politique que pour montrer que le roi est nu. Il y a une sorte d'inflation du discours qui fait que trop de politique est visible à la télévision, dans la presse, etc. Donc voilà, ce trop-plein fait que les journalistes ne s'intéressent plus au discours normal, ils ne s'intéressent qu'aux pathologiques, pour le coup, et donc à ce qui dépasse, aux accros dans le discours, aux lapsus, aux à-côtés. Ils découpent des phrases pour les faire tourner sur Internet, mais les citoyens aussi font ça. Donc chacun ne s'intéresse plus qu'aux défauts de la politique et non pas à son cadre habituel et à son fonctionnement régulier. Donc c'est là que se trouve, à mon avis, la difficulté. Il faut bien voir que, de ce fait, le politique est dans une situation de dépendance quasi totale. C'est bien lui le plus affaibli. Il se désappartient totalement, notamment dans son rapport au temps. Avec le quinquennat, vous avez des élections en permanence. Donc, qui a le temps de se consacrer à de grandes réformes quand tous les 6 mois, les citoyens peuvent vous dire « Non, je ne veux pas qu'on augmente les impôts, etc. » Bon, donc, il faudrait aussi, il me semble, tenir compte du fait que le politique nous représente. Nous avons chacun, tous les citoyens, un pouvoir. Et qu'en l'occurrence, il nous fait en quelque sorte, oui, le sacrifice de son corps, quasi physiquement. J'ai vu travailler plusieurs ministres et un président. Eh bien, je peux vous dire que voilà, il y a un poids physique qui pèse sur cet individu, qui certainement a le pouvoir de trancher, in fine, la décision, mais qui est tiré à eu et à dia entre différentes coteries, différentes lignes, différents conseillers, et tout le monde veut être au dernier stade de la décision dans son esprit à lui. Donc, il me semble qu'il y a un quatrième point qu'il faudrait rajouter, peut-être au triangle que vous avez identifié, Michel Schneider, qui serait le cabinet. Et c'est ce que j'ai voulu expliquer dans mon livre, c'est-à-dire les conseillers qui entourent le prince. Le prince n'étant finalement, en quelque sorte, que le corps qui va donner forme à des décisions qui ont été prises ou proposées par les gens qui travaillent avec lui. Et c'est là qu'on retrouverait aussi peut-être du narcissisme dans le cabinet qui l'entoure, puisque les courtisans du prince, et là on est encore en régime de royauté, les courtisans du prince veulent lui certifier qu'effectivement il est toujours le plus beau des oiseaux, le plus fort, le plus puissant, pour réussir à faire avancer leurs idées dans son esprit à lui.
Michel Schneider.
J'ai plutôt le sentiment que ce triangle des pouvoirs est un triangle des non-pouvoirs. Entre les médiatiques et les politiques, c'est évidemment la rivalité mimétique. Et on assiste à d'étranges chassés-croisés. Il n'y a pas si longtemps, les journalistes rêvaient de devenir hommes politiques. Aujourd'hui, ce sont les hommes politiques qui rêvent de devenir journalistes.
Et parce que parfois le deviennent.
Comme Roselyne Bachelot. Bon,
c'est quand même très impressionnant.
C'est très impressionnant. C'est-à-dire que la bonne image aujourd'hui, la bonne place, c'est la télévision. Hein. Ouais. C'est là qu'est le pouvoir, ou en tout cas son semblant. Bon, ouais. Quant aux basiques, ils sont investis du pouvoir, une fois tous les 5 ans, d'élire un président de la République à qui ils délèguent toutes leurs espérances, leurs rêves et leurs problèmes. Et un point, c'est tout. Et ensuite, il n'y a plus aucun contrôle, aucune représentation, aucune limite à l'omnipotence du président, qu'il soit de gauche ou de droite.
Oui, mais vous ne trouvez pas...
Le pouvoir, il est où aujourd'hui ? Il est évidemment dans les médias, mais il est surtout dans les salles de marché et des agences de cotation. C'est bien là qu'est le vrai pouvoir. Il n'est pas, je dirais, il est même ni à l'Élysée ni à Matignon. Et c'est pas parce qu'on fait de multiples annonces dans de multiples domaines qu'on on est en prise réelle sur les difficultés, les enjeux de la politique.
Oui, mais Michel Schneider, restons-en pour le moment à ce que vous appelez les basiques. Il dispose, et Marie Degan l'a dit, avec Internet, d'un instrument très puissant et très efficace. Pierre Rosanvallon a parlé de l'émergence d'une société de méfiance. À ma grande surprise, il s'en félicite. Donc, la méfiance et le contrôle, etc., le veto des citoyens. Mais la méfiance peut être aussi la méchanceté, le scepticisme a priori, le goût de dépecer celui qui a en apparence une position de pouvoir, qui est situé plus haut que vous, donc une sorte de vengeance démocratique à l'égard des politiques et de leur position ou de leur posture transcendante. Le basique est relayé par l'animateur, relayé par l'humoriste, et nous vivons quand même dans une société de la dérision perpétuelle, et l'acharnement contre les politiques a pris quand même une forme effrayante. Je me souviens des couvertures sur Nicolas Sarkozy, qui était le voyou de la République, c'était Marianne, et maintenant, je crois que la dernière couverture de Valeurs Actuelles sur François Hollande nous le présente comme le président le plus nul de la Ve République. Non seulement parce que ses sondages sont en baisse, mais justement, c'est-à-dire portés par les sondages, portés par les basiques, eh bien, on frappe, on piétine l'homme politique avec une allégresse incroyable. Alors, nous vivons dans une société assez rude, dans tous les milieux, le milieu intellectuel aussi, bien sûr, mais là, ça prend quand même des proportions effrayantes à la mesure, justement, de la médiatisation et des nouvelles technologies. Et c'est quand même quelque chose qui doit être pris en compte. Et est-ce que cela n'infirme pas votre thèse centrale sur le narcissisme que les politiques seraient en train de satisfaire en se regardant dans le miroir des médias, parce que l'image que ce miroir leur renvoie est très souvent une horrible caricature.
Oui, d'abord, il y a une version du narcissisme qui est le masochisme, qui donne des satisfactions, comme vous dites, de n'avoir à prendre que des coups dans le combat politique. Il y a des gens à qui ça fait plaisir, d'une certaine façon. Bon. Mais au-delà de ça, il y a quand même ce jeu où les politiques cessent de regarder la France, comme disait le général de Gaulle, cessent d'avoir une vision et sont bloqués par le miroir qui n'est plus du tout ce qu'étaient les miroirs des princes dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, qui étaient des brévières d'enseignement à la fois du salut du prince et du salut de son État. Aujourd'hui, le miroir que se font les communicants et les journalistes qu'ils offrent à l'homme politique comme à la fois un reflet de la société et comme un reflet de son propre de sa propre apparence, on ne voit pas à travers un miroir, on se voit. Et quand on se voit, très, très facilement, je vous renvoie évidemment au mythe de Narcisse, quand on se voit très narcissiquement, on se perd dans sa propre image. Donc c'est cette déperdition du politique dans la fuite des miroirs. Pourquoi est-ce que les politiques sont tous sur Twitter ? Qu'est-ce que ça leur apporte ? Est-ce que la communication politique aujourd'hui ne doit pas être le gouvernement, le Parlement, la représentation nationale, le vote des lois, et puis une parole politique d'autorité ? Et qu'est-ce que c'est que ce dialogue privé qui concerne des centaines de milliers de personnes sur des affaires politiques de première importance ? C'est vraiment court-circuiter la notion de volonté générale.
Mais lorsque vous parlez du narcissisme politique, pour moi, c'est inhérent à la politique. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, enfin, ça ne date pas de l'ère médiatique. Si vous prenez le roi qui va dans ses provinces, il se présente en majesté dans un déplacement autrement plus Potemkin que celui qu'on accuse nos présidents de faire aujourd'hui. Donc, il se voit partout, dans le regard de ses sujets, dans les flatteries de ses courtisans. Donc, voilà. Et il va, dans ses provinces, guérir les écrouelles. Donc, on lui attribue un pouvoir magique. Aujourd'hui, le président va, comme on dit, sur le terrain. Et dans ses déplacements sur le terrain, il est à peine mieux traité que le réparateur de Darty arrivant avec sa camionnette. J'ai souvenir d'un déplacement avec le précédent président, il était allé en banlieue sans médias, justement. Il ne voulait pas être accompagné par des journalistes. Et il était allé discuter avec des familles dans des HLM. Et à la sortie d'une des barres HLM, des jeunes gens traînaient dehors. Donc il leur parle, il leur dit « Mais alors, qu'est-ce que vous faites là ? Pourquoi est-ce que vous restez dehors comme ça ? Vous n'avez pas mieux à faire, etc. » Et un des jeunes gens qui est là lui dit « Ah, mais vous savez, on n'a pas de travail. » Alors le président lui dit « Ben écoutez, il faut s'en occuper, il faut prendre les choses à bras le corps. Peut-être, voilà, je vais faire quelque chose pour vous, moi. Je discutons-en. » Et un des jeunes gens lui a dit « Oh non, non, vous inquiétez pas, je sais pas, je vais peut-être aller voir à la mission locale. » Et l'idée que, voilà, le président, même le citoyen moyen, ne croit pas au pouvoir du président. Bon, donc c'est fini de penser que l'ego politique règne en majesté sur les esprits. Bon, donc ça, je pense que c'est une erreur de perspective de penser que ce serait particulièrement démultiplié par la société médiatique dans laquelle nous vivons. Parce qu'aujourd'hui, elle permet au contraire aux citoyens de présenter leur vision du politique et leur propre ego en petite majesté, si je puis dire. Donc, finalement, là où je vous rejoins, c'est sur la question de la passion personnelle. Oui, nous sommes entrés dans une ère du narcissisme, à laquelle les politiques n'échappent pas, mais on peut penser que le grand homme, ça n'est jamais que le narcisse qui, avec sa passion personnelle, pour faire triompher son ego, va faire, malgré lui en quelque sorte, avancer l'histoire. Ça, je pense que ça n'est pas une vision complètement idéaliste. Maintenant, la question plus importante, à mon avis, que vous posez, et qui est là assez juste, c'est le règne du narcissisme généralisé, et pas seulement en politique. Et ça touche la modernité. Donc, si on considère que le narcissisme est une pathologie de notre époque, il faut bien voir qu'elle est née avec la Révolution française, quand on a dit nous sommes tous égaux, donc comment se différencier, comment se distinguer, et à partir de là, vous avez les pathologies de la représentation, et particulièrement de la démocratie. Bon, il n'est pas besoin de relire Tocqueville pour le savoir. Mais je pense que c'est plutôt une question d'air du sujet qu'une question de politique contemporaine.
Non, distinguons le narcissisme ordinaire qui est nécessaire à chacun de nous pour vivre, créer, travailler et survivre dans un monde violent. Et le narcissisme pathologique qui est tout autre chose. Vous prenez, par exemple, vous avez raison, vous prenez la crise financière de 2008. Aujourd'hui, beaucoup d'analystes américains considèrent que l'une des racines de cette crise, l'un des accélérateurs de cette crise, c'est la pathologie propre d'une bande de fous furieux qui avaient perdu tout sens de la réalité parce qu'ils étaient dans le virtuel du matin au soir et qu'ils ont fait prendre des positions risquées à l'ensemble de l'économie qui s'est ensuite effondrée dans les subprimes. Bon, ce comportement pathologique a des effets sociaux réels, bien entendu. C'est-à-dire, cette représentation virtuelle d'un monde a des effets sur le réel. Mais là, on a affaire à des personnalités pathologiques. Alors, le narcissisme, c'est pas de s'aimer soi-même et de s'aimer plus que le voisin. Tout le monde, et heureusement, s'aime plus que son semblable ou son soi-disant semblable. Mais le narcissisme pathologique, c'est de s'aimer soi-même, c'est d'aimer sa propre image, c'est-à-dire quelque chose qui est déjà une projection et de prendre cette image pour son être. C'est de s'y croire, comme on dit dans le langage courant. C'est de penser qu'on est au pouvoir parce qu'on y est entitled, disent les Américains, qu'on y est autorisé, qu'on a un titre à exercer ce pouvoir. Et Pascal dit très bien, le pouvoir, c'est une délégation. Ne croyez pas, vous les grands, que vous êtes là pour vos mérites personnels. Vous êtes là parce que la société ou Dieu vous ont mis à cette place-là. Alors aujourd'hui, Marie, je pense que vous avez raison. La classe politique est toujours animée de pulsions de pouvoir et de représentations sans doute moindres que celles de Louis le Grand. Mais il y a une différence majeure, c'est qu'elle a les outils, notamment les nouvelles technologies, qui lui permettent d'étendre leur moi grandiose, comme on dit en psychanalyse, leur moi grandiose à la planète entière, dans le meilleur ou le pire des cas. Donc c'est quand même un changement majeur d'avoir une classe politique aujourd'hui qui passe son temps à se demander non pas que faire, comme disait Lénine, mais que dois-je dire pour être, que dois-je faire semblant de faire pour exister. Et c'est là où je dis que le reflet a d'une certaine façon mangé la politique réelle et conduit à la défaite de la chose publique.
Oui, mais en même temps, et ça je vais quand même me tourner vers Marie Degan, vous parlez de la crise et d'une pathologie qui serait à l'origine de cette crise devenue mondiale. Les responsables politiques français ont eu à traiter de cette crise. Elle leur a vraiment tombé dessus. Elle a fait que, effectivement, la droite au pouvoir n'a pas pu tout à fait appliquer son programme. Et cette réponse à la crise a été une réponse politique. Certains disent que la réponse conjointe de Gordon Brown et de Nicolas Sarkozy a été vraiment tout à fait à la hauteur de l'événement. Elle nous a évité une catastrophe mondiale tout à fait possible, ce qui prouve quand même d'abord que les politiques ont un certain pouvoir, peut-être pas le pouvoir de faire, mais au moins un pouvoir de réaction, et qu'ils ne sont pas cantonnés à la gestion de leur propre image. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette vision des choses ?
Oui, je pense vraiment qu'effectivement, la crise a prouvé que le politique avait encore du pouvoir, avait encore une prise sur la réalité, puisque c'est bien ça dont il s'agit aujourd'hui. Hein. Vous parliez tout à l'heure, Michel Schneider, de la dématérialisation, en quelque sorte, de ces valeurs qui ne sont plus liées à aucune réalité, notamment en économie. Mais les politiques ont encore prise sur le monde. Leur réaction face à la crise l'a prouvé. Alors, est-ce qu'ils peuvent avoir une prise sur le monde en amont des difficultés et des crises ? Là, effectivement, se pose la véritable question. Mais je pense que ce que vous dites sur le narcissisme des politiques est peut-être vrai pour leur ressort interne, si on voulait faire une psychanalyse de leur intimité. Bon, mais ça, en quelque sorte, ça n'est pas leur personnage public, et ça n'est pas de notre intérêt à nous, citoyens, de savoir si oui ou non ce sont des monstres d'ego. L'essentiel est qu'ils fassent leur travail. C'est un travail aussi. Enfin, c'est une mission. Mais il y a une activité derrière, et ils la font. Ils ne sont pas... ils ne passent pas leur journée à se complaire dans leur image. Elle est un à côté de ce travail qu'ils effectuent, et je pense que c'est finalement pas forcément une juste rétribution, mais une maigre rétribution par rapport au sacrifice de leur liberté. Et évidemment, après, vous avez une analyse de psychanalyste. Vous-même, vous proposez une lecture de psychanalyste qui est tout à fait intéressante sur les ressorts fondamentaux de la bête politique. Ça, je trouve ça très intéressant dans votre livre. Mais sur le diagnostic citoyen, je ne vous rejoins pas. Alors peut-être est-ce parce que vous seriez, on va dire, de l'école Pascal, là où je serais de l'école Montaigne, à douter beaucoup plus et à m'intéresser plutôt à la question des failles du sujet et qui nous concernent tous. Parce que tout à l'heure, je vous disais que la question ne touche pas seulement la politique. Il y a un fonctionnement narcissique dans les médias, effectivement. Les journalistes n'en sont pas exempts, les psychanalystes non plus, les universitaires non plus. Et donc, cet air du sujet, je pense que c'est là que nous devons porter notre réflexion.
Il ne faut pas méconnaître qu'il y a un changement majeur, qualitatif, dans le recrutement de la classe politique et le fonctionnement à la fois individuel et collectif de nos hommes dirigeants. On est passé d'une génération où on exerçait le pouvoir au nom d'eux. Alors, sous l'Ancien Régime, c'était au nom de Dieu. Sous la République, c'était au nom du peuple et de la République. Sous le communisme, c'était au nom du prolétariat. Bon, peu importe. Mais c'était, il y avait une transcendance à la politique. Le politique se référait à autre chose que le politique. Aujourd'hui, le politique sombre dans la politique. C'est-à-dire que la politique devient sa propre fin. Les hommes politiques se regardent faire de la politique et essayent d'empêcher le voisin de les empêcher de rester en place. Et tout ça devient une espèce de circularité vaine où on ne se demande pas au nom de quoi, mais on se présente comme en tant que. Alors vous avez, en tant que premier secrétaire du Parti Socialiste, je pense que. Mais qu'est-ce que c'est que cette appartenance qui vient en lieu et place d'une tradition, d'une représentation et. Quand on dit « au nom d'eux », c'est bien « je ne suis pas dans la toute-puissance ». Quand on dit « en tant que », on est dans la toute-puissance narcissique.
Mais là, c'est toujours ce terme de toute-puissance qui me surprend, Michel Schneider, parce que je ne vois pas où s'exerce cette toute-puissance. Je vois, au contraire, les politiques sans cesse traîner dans la boue. Et si toute puissance il y avait, si pouvoir il y avait, il y aurait en face, quand même, quelque chose comme du respect, une sorte de crainte. Mais Dieu sait si on ne craint pas les hommes politiques. Par exemple, enfin, on en a beaucoup voulu, et à juste titre, à Nicolas Sarkozy, de cette phrase « casse-toi, pauvre con », prononcée au Salon de l'Agriculture. Mais que lui est-il arrivé ? Un homme est allé vers lui, il a voulu lui serrer la main, et le type lui a répondu à trois reprises. « Me touche pas, tu me salis ». Il tutoie le président de la République, il lui parle en ces termes. Bon, Nicolas Sarkozy murmure, et la phrase est espionnée par un micro qui était là. Bon, une chose qu'il n'aurait pas dû dire, mais il faudrait quand même s'arrêter une seconde à une phrase comme celle-là. C'est-à-dire, on tutoie l'homme politique, la télévision l'a complètement désacralisé, toute dissymétrie est rompue, il est vraiment celui à qui on peut tout dire, sur lequel on peut déverser toutes ses humeurs. Donc, s'il y a en lui, à un moment donné, une illusion de la toute-puissance, il me semble, dès qu'il accède à un certain pouvoir, voire à une certaine notoriété, il est obligé d'y renoncer. Et là, je rejoins ce que vous disiez sur le masochisme. Je ne comprends pas le masochisme des hommes politiques qui vont dans les émissions de télévision où on les insulte. Vous citez, Michel Schneider, cette phrase de Rocard sur la fellation. Mais c'est la question d'Ardisson qui est effrayante. Est-ce que sucer, c'est... je sais pas quoi. Bon, Rocard s'est trompé. Rocard est surpris, il bredouille une réponse. Laurent Baffy quitte le studio avec lui en le tenant par le bras et lui disant « Viens ma couille, on va en discuter ». Mais le problème, c'est que les hommes politiques sont traités comme ça et ils reviennent. Et c'est « Je ne comprends pas, moi, jusqu'à quel point ils peuvent accepter de se laisser humilier aujourd'hui ». C'est ça la grande surprise pour moi.
Un homme politique digne de ce nom aurait quitté le plateau à la question et n'aurait pas répondu par autre chose que son claquage de porte. Et bon, effectivement, cette familiarité, elle est des deux côtés. Hein. Quand vous avez un président de la République qui tutoie tout le monde, il ne faut pas s'étonner, et qui emploie un langage privé, familier. Hein. On dit tous des gros mots toute la journée, plus ou moins. Mais Il y a une confusion, et Marie Le Gand le montre bien, il y a une dégradation de la parole publique, une dégradation linguistique, sémantique du langage public qui fait qu'aujourd'hui, ce langage ne peut plus être respecté parce qu'il n'est pas respectable. Je veux dire, quand vous essayez d'être comme tout le monde et de parler comme tout le monde, le peuple qui, lui, sait que vous ne parlez pas la même langue que lui, le perçoit comme une dégradation de votre autorité, de votre image, et il répond en vous salissant, effectivement, par son propre comportement.
Oui, de l'intérieur de cet univers-là, j'ai vécu le fait que la politique avait été désacralisée. Et c'était effectivement un grand souci, une grande inquiétude pour tous les cabinets et les hommes et femmes politiques eux-mêmes. Donc comment être à la fois visible tout en représentant, on va dire, un espace sacré qui serait l'espace du pouvoir collectif incarné dans un corps momentanément. Cette difficulté-là, je pense que nul n'a réussi à y trouver, à y apporter réponse, puisque le discours politique oscille entre le mensonge du grand récit mythique totalement désancré à toute réalité et puis le discours complètement technocratique, plat, qui ne propose aucune vision, aucune profondeur, qui est dans sa volonté réaliste, qui est tout à fait désolant aussi. Bon. Mais je voudrais revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, Michel Schneider, sur le recrutement des politiques. Vous disiez les gens se présentent aujourd'hui en tant que et non pas au nom d'une transcendance. Mais ça, c'est encore une fois un effet de notre époque. La fin des idéologies provoque cet effet-là. Bien Donc sûr. Ça ne veut pas dire que nous avons les plus minables et que les grands esprits capables de se désincarner seraient allés ailleurs.
Mais ce n'est pas simplement la fin des idéologies. Nous vivons à l'ère médiatique, à l'ère de l'information triomphante, sous, je crois, le régime de la discontinuité. Les événements se succèdent et chacun est à lui-même sa propre signification. Chacun requiert d'ailleurs des hommes politiques les réactions appropriées puisque les micros se tendent et le sens de la continuité historique se perd. De Gaulle parlait au nom de la France. Il aurait eu cette phrase auprès d'un ambassadeur, je crois. « Monsieur l'ambassadeur, ça fait 15 siècles que je vous dis. » Alors, c'est un autre « je » que le « moi, je ». Mais où sont ces 15 siècles aujourd'hui à l'ère de la discontinuité? Et il est vrai qu'avec Nicolas Sarkozy, on a eu un président très discontinu. Mais à l'image de notre monde, à l'image des exigences qui pèsent aujourd'hui sur lui. Vous parlez, Marie De Gand, du discours de Grenoble qui vous a beaucoup ému parce que vous ne vous êtes pas reconnu dans les propositions de ce discours. Moi, ce qui m'avait beaucoup frappé au moment de ce... C'est quelques mois après, Nicolas Sarkozy, interrogé sur ce discours, a dit, mais vous, les journalistes, vous avez parlé pendant 15 jours de cette agression qui s'était produite par les gens du voyage dans un village de, je ne sais plus de quel département il s'agit, et au fond, il dit, bah, donc, j'ai bien dû répondre, en quelque sorte. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que l'événement a pris une sorte de signification purement médiatique, en dehors de toute histoire, et les hommes politiques sont sommés de s'adapter à ce nouveau régime temporel. Or, la politique sans la durée, évidemment, perd beaucoup de sa substance, ce qui conduit d'ailleurs Michel Rocard à dire « la politique est devenue un métier impossible ».
Oui. Michel Schneider. Sur la question du temps... il y a effectivement une accélération, un zapping permanent du pouvoir politique qui prend un problème et puis le suivant avant, alors même que le précédent n'est même pas commencé à être, n'a même pas commencé à être réglé. Bon, il y a cette espèce de fuite en avant qui est tout à fait en phase avec ce qui se passe dans la société. Mais ce qu'on attend d'un homme politique, c'est précisément le recul et la distance. Je reviens à Machiavel, Le Prince, 1513, ça fait 5 siècles. Machiavel décrit une société qui n'est pas loin de la nôtre. Il dit « Notre société ressemble à une chose égarée que rien ne rassemble plus. Des oiseaux effarouchés volant en tous sens. » On peut regarder la France comme ça aujourd'hui. Des oiseaux effarouchés volant en tous sens, cassant les portiques de l'écotaxe. Bon. Et devant cela, qui dit « Que doit faire l'homme politique ? Est-ce qu'il doit continuer à vouloir être aimé ou à simplement préférer être craint ?» Il ne dit pas haï, il dit être craint. Or, aujourd'hui, la politique se résume à la perte de l'autorité. L'autorité, c'est quand même le respect, si ce n'est la crainte, du moins le respect du pouvoir. Et j'aimerais que le pouvoir ne cherche plus à être aimé, parce qu'à force de chercher à être aimé, il est haï. Et il faudrait qu'on sorte de cette dualité amour-haine, qui est celle, effectivement, du narcissisme et du lien amoureux, pour entrer dans une sorte de démocratie raisonnable où on cesse d'aimer le pouvoir ou de le détester, mais on se contente de lui obéir, de le choisir et de le respecter dans les décisions qu'il prend.
Mais des efforts doivent être faits dans les deux sens, alors.
Dans les deux sens. Il faudrait effectivement que l'opinion considère que le pouvoir est au-dessus et que s'il n'était pas au-dessus, il n'aurait pas la vision et la capacité de gouverner, au sens propre du terme, un pays.
Je suis tout à fait d'accord avec l'idée que l'essence du politique ou son idéal, ce serait de rendre du champ de la profondeur à une action et à l'engager dans la durée, et non pas seulement se contenter d'écoper les ennuis qui vous tombent sur le coin de la figure. Mais la crise, par exemple, qu'on évoquait tout à l'heure, a bien prouvé qu'il fallait aussi des politiques réactives, capables en quelques jours de réagir, de mettre en branle une politique internationale en cherchant des alliés. Et ça, nul ne l'avait prévu. Donc, toute la difficulté est là. On est dans une époque qui s'est accélérée, où les coups du sort qui peuvent frapper, ou l'événement a pris une résonance planétaire, et donc sa puissance à lui est décuplée. Mais par ailleurs, je ne pense pas qu'il faudrait rendre du pouvoir aux politiques et le sortir du régime des affects, la haine et l'amour, comme vous le dites, en pensant que ça va rendre du sens à notre monde. Je pense que le pouvoir s'est diffusé, qu'on le veuille ou non, à l'ensemble de la société, et que chaque citoyen a aujourd'hui prise sur ses représentants. Donc il faut en prendre acte et chercher peut-être d'autres solutions.
Oui, mais enfin, si le citoyen a du pouvoir, ce pouvoir peut être critiqué au même titre qu'on critique les titulaires officiels du pouvoir politique.
Oui, et notamment sous cette question de l'autorité, mais que je prends en son sens étymologique, c'est-à-dire l'autoritas, c'est celui qui signe de son nom aussi. Oui. Et là, effectivement, le pouvoir des citoyens est généralement un pouvoir anonyme,
les
où aucun n'est responsable de ce qu'il répond. Et c'est là qu'effectivement, il faut faire porter nos efforts aussi. Je pense qu'il y a des choses dans le domaine juridique à mettre en place pour que les contre-pouvoirs citoyens soient aussi responsables de la parole qu'ils répandent et qu'on sorte de ce régime de l'accusation anonyme généralisée.
Oui, mais alors, je voudrais en venir, Marie Dedan, quand même un tout petit peu à votre expérience. Vous êtes de gauche, vous êtes la plume de Nicolas Sarkozy. Là, d'ailleurs, il y a aussi quelque chose qui m'étonne, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu des gens pour écrire les discours, mais maintenant, Henri Guénaud était une plume qui s'affichait, qui disait qu'il écrivait les discours de Sarkozy en temps réel, ce qui quand même était une blessure narcissique pour le président, puisqu'il avait l'air de réciter le discours d'un autre. Mais maintenant, on sait que vous avez écrit certains discours. On sait aussi que Camille Pascal était l'autre plume, puisqu'il a publié lui-même un livre sur ce sujet, ce qui contribue malgré tout quand même à la désacralisation de la fonction politique. Mais je ferme cette parenthèse pour vous poser la question. Avez-vous appris, pendant cette période, justement, à apprécier Nicolas Sarkozy, président de la République, élu, pas par vous, si j'ose dire?
Oui, mon exploration, elle visait aussi à voir ce qui tient dans les clivages gauche-droite, la différence entre eux, les socialistes et l'UMP, ce genre de choses. Bon. Mais je voulais surtout explorer ces politiques qu'on me décrivait dans ma famille comme des gens corrompus, des fous, des narcisses demi-dingues jouissant de leur position sans rien faire. Je force un peu le trait, mais disons qu'il s'agissait justement de sortir de ces représentations un peu infantiles pour savoir quel socle reste encore valide. Donc j'ai appris à apprécier le travail des politiques, leur engagement, leur volontarisme. La limite de mon appréciation, ce serait que j'ai été très déçue sur un point par l'univers politique. J'ai trouvé que ce n'était absolument pas un univers d'intellectuels. Alors, ça peut faire rire, mais effectivement, j'y allais naïvement en pensant que c'était le lieu du débat d'idées. Et je n'ai pas trouvé un seul intellectuel. C'est-à-dire que même ceux qui se présentent comme le conseiller spécial, etc., ont parfois des visions du monde construites, et heureusement qu'il y en a. Mais disons que ce ne sont pas des gens avec qui on peut vraiment discuter. Donc, là, il faut qu'il y ait un effort de la société civile et particulièrement du monde intellectuel pour chercher dans l'élaboration des idées ce qui peut être ensuite utilisé par le politique. Il ne faut pas que les intellectuels aient peur de se salir les mains en allant en politique et en trouvant que, décidément, ils ne veulent pas servir d'experts, puisque ça c'est une insulte. Et donc être consulté par le politique, pour les intellectuels, c'est généralement considéré comme dévalorisant. Donc il y a là aussi un effort à faire du côté des universitaires, je pense.
Le problème, c'est que quand Nicolas Sarkozy consulte un intellectuel, il le fait venir et c'est lui qui parle. Il n'est pas le seul dans ce cas,
il faut pas être naïf et demander à qui que ce soit d'être autre chose que ce qu'il est. Les hommes politiques ne sont pas là pour leur culture, pour leur pensée. Ils sont là pour exercer le pouvoir, si possible, dans le sens du bien commun. Et un point, c'est tout. Moi, ce que je leur demande, c'est d'être honnête, efficace. C'est pas d'être cultivé.
Alors pourquoi leur reprochez-vous leur narcissisme ?
Parce que le narcissisme, il y a un narcissisme intellectuel, il y a un narcissisme aussi de l'argent, du pouvoir.
En quoi les empêche-t-il de fonctionner dans ce cas-là ? Si c'est juste un à côté de leur efficacité.
Ah non, c'est encore une fois une question de degré et d'excès. Un narcissisme qui vous pousse, comme Cahuzac ou Strauss-Kahn, à enfreindre des lois morales.
Pensez bien que Strauss-Kahn, c'était le narcissisme. Ça avait l'air d'être une addiction qui l'a détruit. Son désir narcissique, c'était d'être à l'Élysée. Son addiction est allée, et si vous voulez, contre son désir.
Le narcissisme a des formes physiques, l'image de soi. Il aurait dit dans cette chambre d'hôtel célèbre aujourd'hui, il aurait dit « Est-ce que vous savez qui je suis ?» C'est quand même la question même du narcisse. Enfin, vous ne savez pas, vous, qui je suis. Vous, femme de ménage, vous ne savez pas que je suis le directeur général du FMI. Bon, cette question du narcissisme est quand même conduit une certaine catégorie d'hommes politiques qui sont alors là, pour le coup, des pervers narcissiques ou des personnalités narcissiques pathologiques, à un sens de l'irresponsabilité, y compris pénale, qui est quand même consternant. Il faut quand même savoir, on passe assez rapidement là-dessus, il faut quand même savoir que la classe politique française est l'une des plus corrompues du monde occidental.
Non. Je vais d'abord vous lire une citation de Nicolas Gomez Davila, qui est un écrivain colombien, auteur d'aphorismes aussi beaux que ceux de Sioran, pour les intellectuels. Parce que vous dites, les hommes politiques ne sont pas des intellectuels. Et il a cette phrase très, très belle, je trouve. L'intellectuel n'oppose pas à l'homme d'État l'intégrité de l'esprit, mais le radicalisme de l'inexpérience. Et il y a aussi ça, si vous voulez, chez les intellectuels. C'est-à-dire, ils ne se demandent pas, comme le faisait Raymond Aron, c'était sa discipline, que ferais-je à sa place ? Et le jour où ils se poseront cette question, peut-être seront-ils mieux à même de conseiller les hommes politiques, si tant est que les hommes politiques veulent bien les écouter. Mais je voudrais vous lire et vous demander ce que vous en pensez, les extraits d'un article de Hans Magnus Enzensberger. Pitié pour les hommes politiques. Peut-être est-il temps de renoncer à insulter les hommes politiques. Il y a belle lurette que cette pratique de l'insulte a rompu ses liens avec son lieu d'origine, le discours oppositionnel, et qu'elle est devenue un lieu commun de la majorité râleuse. Depuis lors, elle circule et sert de passe-temps dans tous les médias. Comme toujours, quand il n'y a plus rien à révéler, la révélation devient une routine et une industrie. Elle est profitable s'agissant d'augmenter les tirages ou les chiffres de l'audimat, et on sait ce que beaucoup de journaux doivent à l'antisarkozisme. Et puis, une autre phrase, tout comme le pensionnaire d'un asile, l'homme politique est constamment surveillé, le Judas de la cellule ou le système panoptique des pénitenciers est remplacé dans son cas par l'objectif des caméras. Les surveillants, ce sont les journalistes et les procureurs, comme même le politicien personnellement intègre est bien obligé d'évoluer dans les zones d'ombre du financement des partis, dans la jungle des subventions et des exportations d'armes et dans la boue des services secrets, l'angoisse ne le quitte pas. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Michel?
L'homme politique a fait le choix de s'exposer, d'être dans la visibilité, donc dans la critique, voire l'injure. C'est les risques du métier. Je veux dire, personne ne l'a forcé à gravir les échelons au point où il a une visibilité qui gêne et qui suscite la haine d'une partie des médias et de l'opinion.
Oui, mais Michel Schneider, vous dites la classe politique en France est très corrompue. Mais l'exemple que vous cité dans votre livre, et vous êtes d'une sévérité extrême, c'est Jérôme Cahuzac. Vous dites que son comportement est répugnant. Mais alors, Jérôme Cahuzac avait un compte en Suisse, l'argent qu'il gagnait comme chirurgien esthétique. Ce compte n'était plus abondé depuis 10 ans, peut-être davantage. Il l'avait mis au secret à Singapour. Il est clair que pour un ministre du budget, avoir un compte à l'étranger, ça ne se fait pas. Mais il n'a pas puisé dans les caisses de l'État, il n'a pas touché de l'argent de grandes industries pour prendre les décisions qui allaient dans leur sens. Aucun fait de corruption dans sa carrière politique n'est avéré contre lui. Et en même temps, il a quand même subi une critique d'une violence extrême, comme s'il incarnait la corruption politique elle-même. Là, je crois qu'il y a un phénomène d'exagération.
Il incarne autre chose. Il incarne, comme Bernard Tapie, comme d'autres, le franchissement complet de la limite entre les affaires privées et la chose publique. Un ministre du budget est au service de la finance publique et il est quand même assez malvenu que ses affaires privées l'amènent à enfreindre une loi qu'il impose à tous.
Oui.
Bon,
c'est ça, je suis d'accord avec vous, mais ça ne témoigne pas de la corruption généralisée de la classe politique quand on voit ce qui se passe en Ukraine, en Afrique du Sud dans d'autres pays. C'est sans commune mesure.
J'ai parlé de pays européens démocratiques où effectivement, je veux dire, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre, ou en Suède a fortiori, on quitte le pouvoir pour moins que ça, hein, pour une facture de déjeuner avec sa femme et ses enfants, par exemple.
C'est peut-être un peu exagéré. Oui. Alors, que pensez-vous de cette réflexion est-ce que vous diriez aussi pitié pour les hommes politiques?
Oui, je pense vraiment que c'est une fonction particulièrement pénible à exercer. Et certainement, il y a des cas pathologiques dans les couloirs de l'État. Mais nous devons être reconnaissants à ces politiques et nous engager, si nous estimons qu'ils ne sont pas à la hauteur, dans ce cas-là, que tous les citoyens décident eux-mêmes de se présenter face aux urnes.
Mais en même temps, c'est une décision que vous n'auriez jamais prise.
Moi-même, non, je n'ai pas ce courage-là. Non, j'avoue.
Oui, ça demande du courage.
Mais,
ça, oui.
Mais je pense vraiment que il y a une forme de sacrifice de soi et que chacun y trouve une rétribution dans le monde politique. Mais que ces nouvelles formes de poujadisme qui visent à désacraliser encore plus le politique sont assez nocives. Il ne faut pas confondre les vices du citoyen lambda qui s'est fait corrompre avec la corruption politique qui est, à mon avis, un fantasme populiste assez pernicieux. Mais je pense qu'au-delà, on est dans une... le jugement de Michel Schneider me paraît juste sur l'époque, mais il me paraît plus général, il est consacré à la modernité finalement. On retrouve la critique du solipsisme qu'on avait sous la plume d'un Hegel qui dit il n'y a plus de réalité, il n'y a que le sujet qui dit moi, qui se regarde lui-même et qui a anéanti toute valeur. Et d'ailleurs, Michel Schneider, vous écrivez un moment quand tout se vaut, rien ne vaut. Bon voilà, on est dans effectivement cette ligne hegelienne contre les romantiques qui dirait le sujet ne doit pas être dans la longue déploration de la fin des transcendances, mais chercher plutôt dans l'immanence, dans ce qui nous entoure, de nouveaux possibles.
Oui, je pense qu'on n'est pas dans une société totalitaire du fait des nouvelles technologies, on est dans une société nullitaire, c'est-à-dire qu'effectivement, où tout se vaut, on peut dire n'importe quoi et à n'importe qui, sur n'importe qui. Bon, c'est pas exactement la conception qu'on se fait de la démocratie. La démocratie, et si j'en crois Hannah Arendt, est fondée sur cette distinction entre la vie privée et la vie publique. La parole publique n'est pas la parole privée et doit le rester.
En tout cas, je pense que notre conversation n'a pas été un symptôme de la société nullitaire dont vous parlez, Michel Schneider. Et je vous remercie l'un et l'autre en rappelant le titre de vos livres, Marie de Gand, Sous la plume, petite exploration du pouvoir politique, aux éditions Robert Laffont, Michel Schneider, Miroir des princes, dans la collection Café Voltaire des éditions Flammarion. Vous trouverez les autres références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable 1 an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Du bon usage de Martin Heidegger et mes invités seront Adrien France Lanor et Christian Sommer. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et de Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Jehan Richard Dufour. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.